De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, après avoir discuté dans la dernière émission avec deux distributeurs sur les différentes stratégies à adopter pour la sortie des films, eh bien les choses ont encore changé. Le CNC a décidé d'ouvrir les vannes le 1er avril dernier. L'instance du cinéma a décidé d'anticiper la sortie en VOD de 31 films récents. Crise sanitaire et confinement oblige, le CNC vient d'assouplir la fameuse chronologie des médias. Car en temps normal, eh bien un film ne peut pas sortir en VOD avant un délai de 4 mois après sa sortie en salle, puis ensuite il peut aller sur Canal+, et il faut encore attendre un petit moment avant qu'il n'atteigne les autres écrans. Eh bien, en cette période d'épidémie, tout tombe à plat. Beaucoup de films dont on vous a parlé et qu'on a aimé durant les précédentes émissions sont concernés par cette sortie exceptionnelle en VOD, et c'est donc d'eux dont nous parlerons, mais pas seulement, puisqu'on n'avait pas eu le temps de vous parler de Birds of Prey. On va donc se rattraper, et c'est Marine qui va s'en charger, tout comme de chroniquer The Hunt, le film dont la sortie a déjà été repoussée et qui, eh bien, finalement, termine en VOD sur certaines plateformes seulement. Alors au cours de cette émission, vous aurez aussi l'occasion d'écouter Stéphane Demoustier, le réalisateur de La Fille au bracelet, film sorti en février. Ce sera l'occasion aussi de rediffuser une chronique sur Les Siffleurs, film de Corneliu Porombuyu, sorti en janvier, réalisateur présent à Cannes et dont on entendra quelques mots. Et puis il sera quand même question d'une sortie exclusive en VOD, le documentaire expérimental de Human Surge qui est proposé sur la plateforme de distributeur chez Lac. Mais on commence avec Marine qui, depuis son domicile et devant son téléphone, nous envoie ses chroniques. Elle a pu voir The Hunt, l'histoire d'une chasse à l'homme, la sensation de ses sorties VOD du mois d'avril.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi?
Monsieur? Je vous sers une coupe de champagne?
Parfait.
Il y en a un qui est réveillé.
Alors, The Hunt, c'est la dernière production Blumhouse, un nom dans le cinéma d'horreur américain qui devient de plus en plus gage de qualité, puisque le créateur de cette société de production, Jason Blum, a réinventé en quelques films un cinéma d'horreur moderne, inventif, politique et subversif. The Hunt nous embarque dans une chasse à l'homme. De riches Américains kidnappent ce qu'ils appellent des déplorables, une dizaine de personnes issues de l'Amérique profonde, électeurs de Trump, collectionneurs d'armes, complotistes, dans le but de les relâcher en pleine nature, puis de les tuer un par un. Alors pour un spectateur français, le film s'apparente à une sorte de lutte des classes, grandeur nature. Pour un spectateur américain, c'est un peu plus subtil que cela. Sans que ces mots ne soient jamais prononcés, le film oppose bien sûr les démocrates et les républicains dans un jeu de massacre très sanglant. Il s'avère qu'en raison de cela, le film a été pris dans une polémique aux États-Unis. Il a été accusé de diviser le peuple américain par Trump lui-même, qu'il n'avait bien sûr pas vu auparavant. Sa sortie a été repoussée en raison de multiples tueries de masse sur le sol américain. Et finalement, en sortant le 13 mars en salle, The Hunt s'est retrouvé confronté au confinement planétaire.
Tous les ans, une élite friquée kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé?
Dans le Wyoming.
À Orlando.
Dans le Mississippi.
Ce n'est pas une plaisanterie. Ils chassent des êtres humains pour le plaisir.
Ce ne sont pas des êtres humains.
Vous désirez?
On est dans quel état ici?
En principe, on sait où on est.
Les principes, c'est pas mon truc.
Vous êtes dans le bel état de l'Arkansas, ma belle. Vous avez une autre question?
Alors bien évidemment, les distributeurs du film ont surfé sur sa réputation sulfureuse en mettant en avant quelques critiques complètement exagérées et alarmistes. On peut lire par exemple sur l'affiche du film, entre autres, je cite, « un film dangereux, un film fait pour diviser ou carrément un film fou et malsain ». Sans trop vous révéler d'éléments du scénario, car c'est un film qui est vraiment fait pour vous prendre par surprise, eh bien non, The Hunt n'est certainement pas le film le plus dérangeant ou choquant de l'année, mais c'est surtout une satire de la société américaine délicieusement mordante et très réussie qu'il serait dommage de rater. C'est également ce que l'on pourrait appeler un film d'action horrifique, Mais surtout, c'est un film eh bien, qui ne prend pas parti, puisque tout le monde en prend pour son grade, ce qui le rend aussi malin que jouissif. Côté mise en scène, c'est un véritable plaisir, le film est très inventif et les scènes de baston s'enchaînent sans pour autant qu'on ait l'impression d'être devant un film totalement décérébré. Et mention spéciale pour finir à deux comédiennes du film en particulier, la mutique Betty Ziegler qui est absolument excellente et Hilary Swank qui signe son retour tant attendu après un passage à vide assez incompréhensible de 10 ans, mais qui revient très en forme ici.
Ce coup-ci, ils n'ont pas choisi la bonne personne. Game
of survival. Ils vont vous massacrer.
On verra.
The Hunt est pour l'instant en exclusivité sur une plateforme VOD, mais arrivera sur les autres à un prix plus abordable prochainement. Première interview de cette émission, celle de Stéphane Desmoustiers, diffusée en février dans l'émission. L'occasion de vous reparler de La fille au bracelet, qui est déjà sortie en VOD.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
S'il y a des films judiciaires, on ne peut pas dire que ce soit un genre bien entretenu par le cinéma français. Et en ce début d'année, eh bien, il a fallu faire avec La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers, précisément le frère de l'actrice Anaïs Desmoustiers, qu'il a débauché pour son film avec ce petit défi, lui faire interpréter le pire rôle dans un procès, celui de l'avocat général. La fille au bracelet du titre, c'est Lise qui a 18 ans et qui depuis maintenant 2 ans porte un bracelet électronique. Car la jeune fille est accusée d'avoir tué sa meilleure amie à l'issue d'une fête. Alors il n'y a pas d'autre suspect qu'elle, ce qui complique évidemment sa défense devant un tribunal d'assises. Ce qui n'arrange pas les affaires de Lise, c'est qu'elle ne semble pas jouer la meilleure des parties devant les jurés, préférant le mutisme, le silence à l'explication. Alors est-elle coupable ? On n'en saura jamais rien. C'est toute la finesse de ce film qui s'attache à un autre sujet. Alors d'une part, même si nous suivons un procès d'assises et si nous en voyons tous les mécanismes, à aucun moment nous ne verrons les jurés qui resteront hors champ, comme pour signifier que les jurés seront aussi les spectateurs. Car à coup de déclaration, de révélation, de non-dit, le spectateur n'en sait pas plus que les jurés qui assistent au procès. Toutefois, on en sait un petit peu plus sur la famille, une famille qui ne sera que trop rarement réunie dans la même image. La mise en scène nous fait épouser son point de vue. Alors le père Roche Dizem est aux côtés de sa fille, la soutient jusqu'à l'étouffer de ses injonctions. La mère, quant à elle, refuse de suivre le procès. Reste le petit frère qui, lui, rêve d'occuper la chambre de sa sœur si celle-ci part en prison. Alors ce que met en scène également Stéphane Desmoustiers, c'est l'écart entre les codes d'une jeunesse et ceux qui doivent juger, puisqu'il est question de tout déballer lors d'un procès. Les parents, les proches ont l'occasion d'apprendre des choses insoupçonnées peut-être. Et le réalisateur va toujours jouer sur cette représentation de la jeunesse qui se frotte, alors sûrement pas à son avantage, à la morale des jurés qui doivent rendre justice. On voit ainsi comment la jeune avocate générale, donc interprétée par la frêle Anaïs Desmoustiers, insiste sur la moralité, sur la sexualité supposée déviante de l'accusé, au risque d'être réactionnaire ou de donner du crédit à une société patriarcale. Alors il ressort donc de La fille au bracelet, dont la mise en scène est limpide, entre procès et moments familiaux, alors non seulement une belle exposition d'un procès d'assises avec son unique suspect, mais aussi le portrait d'une jeunesse et l'attitude des parents confrontés à des enfants qui deviennent des êtres qui leur échappent. On écoute Stéphane Desmoustiers que l'on a pu rencontrer en début d'année.
Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine.
Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ?
On était amis, meilleurs amis.
Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour.
C'est bien ça.
Moi, quand j'ai écrit le film, j'avais l'idée d'être dans la position des parents. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'on était un peu plus que ça et qu'on devenait soi-même juré. D'ailleurs, il n'y a pas de plan. Les fameux plans, un peu passage obligé sur les jurés qu'il y a toujours dans les films d'assises. Là, ils n'existent pas parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais plus le film avance, plus le procès prend de l'ampleur et plus le spectateur devient un juré. Devient plus que simplement un proche de cette jeune fille. Donc c'est les deux à la fois.
Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise ?
Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être.
Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas ?
En racontant un procès, je pouvais raconter vraiment la vie de cette famille et est-ce que oui ou non, cette fameuse question, est-ce que oui ou non on connaît ses enfants ? Je me disais, ouais. Cette affaire, elle permet de vraiment mettre le doigt sur cette question puisque en procès d'assises, on découvre ses proches par la force des choses. Sous un jour qu'on ne connaissait pas forcément. Donc je me disais, c'est une arène idéale pour parler de la famille, pour parler des... Est-ce que des générations se comprennent ? Mais après, le genre, c'est une béquille formidable, parce qu'un procès, c'est un suspense. Il y a l'attente, le témoignage qui va suivre, la déposition qui va suivre, et puis bien sûr le verdict. Ça crée une tension, ça structure nécessairement le film, et moi je pouvais m'appuyer là-dessus. Après, je ne sais pas si c'est une grande originalité, mais en tout cas moi ce qui m'intéressait c'était de respecter le fait que quand on assiste à un procès d'assises dans lequel il n'y a pas de preuve irréfutable, le doute existe toujours. Et je ne voulais jamais que le cinéma ait un temps d'avance sur la réalité du procès. Donc je ne voulais pas, moi, avoir un savoir surplombant sur l'affaire, un savoir omniscient. Et je me suis appliqué à moi-même le doute. Et j'ai mis le spectateur dans la situation d'éprouver ce doute, parce que je pense que le rapport au sien, le rapport à ceux qu'on aime, c'est aussi un rapport où le doute existe et où on doit l'accepter.
Vous savez qu'elle a eu plein de copains ?
Je sais qu'elle en a eu, ouais.
Non, mais vraiment plein.
On a tous commencé au lycée, non ?
Je savais qu'elle était ouverte, j'avais des copains qui avaient déjà fait des choses avec elle.
Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation.
Tout le monde parlait de Lise comme d'une fille pas bien après, comme d'une salope en fait.
C'est le portrait d'une jeune fille de 17-18 ans. Et c'est ce portrait qui est dressé en creux, mais c'est ça moi qui me motivait quand j'ai fait le film, c'est-à-dire c'est l'altérité absolue, c'est une femme et elle est jeune. Et elle est à un âge où on échappe. Alors après il y a plusieurs manières d'échapper. Et l'une d'entre elles ça peut être le silence, mais c'est un film sur l'interprétation. On passe son temps à essayer d'interpréter ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle fait, ce qu'elle n'a pas fait. Et je pense que ces silences, ils sont également sujets à interprétation. Un procès d'assises, chacun joue son rôle. Et elle, c'est comme si elle refusait de jouer le sien. C'est-à-dire, elle ne se conforme pas à l'attitude qu'on voudrait qu'une accusée ait. Et ça, je trouve que ça tient à une forme d'indépendance ou de sauvagerie qui va très bien avec l'adolescence. Donc, tous les adolescents ne sont pas mutiques, mais certains le sont. En tout cas, cette opacité, je pense qu'elle caractérise assez bien l'adolescence. Et je trouvais que, par le silence, on touchait à ça.
Mademoiselle, qu'avez-vous ressenti lorsque Flora Dufour s'est mise en couple avec Nathan Meurin ?
Rien. Enfin, j'étais contente pour elle.
Mais le fait qu'il devienne potentiellement l'ami de Flora n'avait aucune incidence sur votre désir pour lui ?
Non. D'ailleurs, à cette époque, je voyais d'autres garçons, j'ai jamais focalisé sur Nathan.
Mais vous éprouviez des sentiments pour Nathan Meurin ?
Non.
Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation ?
Non, aucun.
Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile ?
Comment ça ? Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi ? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Si j'avais su que ça posait un problème à Flora, on l'aurait jamais fait. Mais sur le moment, on ne pouvait pas le deviner.
J'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas un film qui dénonce une génération au dépend d'une autre, ou qui donne raison à l'une contre l'autre. J'ai essayé de montrer que chacun a ses modes de fonctionnement, que la cohabitation elle est parfois complexe ou difficile. Mais ce n'est surtout pas un procès qui est fait à une génération contre l'autre. Et d'ailleurs, je pense qu'à chaque génération, on s'est dit que celle d'après, c'était la catastrophe. Et je pense qu'à chaque fois, on retombe sur ses pieds. Donc je pense que les ressorts humains qui sont en jeu, c'est toujours les mêmes. Et je ne pense pas que la génération des plus jeunes soit différente de la mienne quand j'avais le même âge. En revanche, la différence, et ça le film en rend compte, mais ils partagent ce constat, c'est qu'eux, ils ont les réseaux sociaux, ils ont d'autres médias, et que ça peut induire une violence que nous, on ne connaissait pas.
Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux ?
Oui.
Et vous constatez, comme moi, qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge ?
Je sais pas.
On va parler peut-être du plus mauvais rôle, celui du procureur général, parce que c'est forcément lui qui accuse. Et celui-ci, vous l'avez donné donc à votre sœur.
Ouais, alors j'avais pas du tout écrit le rôle pour Anaïs, j'avais écrit le rôle pour un homme d'une soixantaine d'années avec des cheveux gris. Je m'étais dit quelqu'un qui aurait la prestance de la fonction. Puis c'est en allant assister à des procès d'assises que j'ai vu que c'était quasiment systématiquement, en tout cas à Bobigny, des jeunes femmes qui étaient avocats générales, la trentaine parfois moins. Donc on m'a expliqué qu'il y avait une crise de la profession et que c'était souvent des substituts qui étaient comme ça propulsés avocat général. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je disais tout à l'heure que c'est un film qui raconte des générations qui ont du mal à se comprendre, mais je voulais montrer que c'était plus complexe que ça, que ça tient aussi à la position qu'on occupe dans la société, etc. Et je trouvais intéressant que ce soit une femme, et en plus jeune, qui soit celle qui porte ce discours moraliste un peu réactionnaire. Comme si elle avait intégré un discours dominant, un discours masculin aussi. Et après, Anaïs, elle n'avait jamais joué de rôle comme ça, agressif, enfin agressif sous proportion gardée, mais quand même d'un personnage qui est ambitieux, qui est prêt à tout pour y arriver. Mais Anaïs, elle ne l'avait pas fait. Elle avait toujours joué des rôles plus mutins, plus solaires, etc. Donc il y avait il y avait un défi pour elle, et moi, ça m'autorisait du coup à aller lui proposer le rôle, parce qu'évidemment, c'est ma sœur, donc je savais qu'elle risquait de dire oui. Je voulais la mettre à la même enseigne que quand je vais voir Roche Dizem, c'est-à-dire que je vais la voir parce que je pense que j'ai quelque chose à lui proposer qu'elle n'a pas forcément fait. Roche Dizem, c'était pareil.
Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse.
Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime.
Que savons-nous des adolescents de 16 ans? Que savons-nous de leurs amitiés? De leurs amours?
Jules, c'est quoi ce couteau?
Bah, c'est un couteau.
C'était Stéphane Desmoustiers, réalisateur de La fille au bracelet, film qui a accompagné quand même 320 000 spectateurs en salle du temps où celle-ci était ouverte. Pour ceux qui l'ont raté, ce film, il est maintenant possible de se rattraper en VOD. Autre bon film qu'on pourrait vous conseiller de voir en VOD, c'est Les Siffleurs de Corneliu Porombouillou, sorti en début d'année et qui lui n'a fait que 84 000 entrées, indignes d'un film si bien orchestré.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
Oui, oh! Ça va?
Les Siffleurs, c'est le dernier film de Corneliu Porombouillou, réalisateur roumain qui l'en doit 12h08 à l'est de Bucarest, ou plus récemment Le Trésor. Un réalisateur qui a l'habitude de se retrouver à Cannes, mais en 2019, son film n'a rien reporté, alors qu'il aurait pu peut-être obtenir une petite récompense, pour la mise en scène. Alors ce film, Les Siffleurs, a longtemps été présenté sous un autre titre, La Gomera. Ce titre est tiré du nom d'une île, une des plus petites de l'archipel espagnol des Canaries. Là-bas, on y parle une langue sifflée pour communiquer de montagne en montagne. Les Siffleurs est un film noir où des truands et un policier se retrouvent liés pour faire évader un certain Zolt. Ce flic roumain qui ne croit plus en grand-chose a l'habitude de travailler avec la mafia et pour l'amour d'une femme fatale évidemment, il va vouloir doubler et ses collègues flics et ses commanditaires. Mais ça ne sera pas si simple. Alors au détour d'un séjour qu'il aurait pu croire tranquille sur l'île de la Gomera, des mafieux espagnols vont l'obliger à apprendre le langage sifflé des anciens habitants de l'île. C'est le seul moyen pour berner les policiers qui, faute de décoder ce langage, croiront que des oiseaux chantent. Ainsi, le langage, qui a déjà été une source de réflexion pour un précédent film du réalisateur roumain, permet ici autant de se comprendre que de berner. Alors, ce n'est pas étonnant que le réalisateur roumain s'empare d'un tel sujet. Son cinéma est travaillé par les rapports entre le langage et la réalité, un élément auquel les personnages sont confrontés. Pour nous balader de cette île espagnole jusqu'en Roumanie et même Singapour, le réalisateur roumain use autant des codes du film noir, du film policier que de la comédie et du western. L'accent comique, on le trouve dans un humour plutôt noir, il faut bien le reconnaître. Alors, c'est toute la singularité de Corneliu Porombouillou qui se distingue ici de ses homologues roumains, un peu trop occupés à sonder leur société corrompue ou le malaise social. Pour mener son récit, le réalisateur se joue des apparences de ses personnages qui proposent de multiples facettes. Il change de lieu, livre de savoureux dialogues. Alors il y a un autre élément important pour le réalisateur roumain, c'est la présence de la musique. J'avoue que cela m'a complètement échappé, mais pourtant la musique lui a permis de resserrer son film et d'en livrer un nouveau rythme. C'est ce qu'il a raconté quand il était à Cannes en conférence de presse. Et tiens, on l'écoute.
Inspecteur Christian Galaké.
C'est le langage, la langue qui m'a attiré. Et je me suis demandé ce que pourrait devenir ce personnage qui est celui du policier, comment il pourrait évoluer en 10 ans. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire.
Everything we speak can be whistled.
Which is?
Mama.
If the police hear the language, they will think the birds are singing.
J'avais vu un documentaire à la télévision il y a environ 10 ans. J'étais ici d'ailleurs à l'époque à un certain regard. Je passais mes vacances en France et j'ai vu ce documentaire à la télé. Je me suis intéressé donc à cette langue, ça m'a en fait fasciné. J'ai commencé à écrire un scénario qui n'était pas très bon, donc je l'ai laissé tomber, j'ai travaillé sur d'autres films. Et après ma dernière fiction, je suis revenu à cette thématique.
Le plan est simple. We need to kidnap him.
Je n'aime pas beaucoup tourner des scènes violentes. Mais dans ce projet-ci, j'ai mis l'accent sur cette tuerie lorsque quelqu'un coupe la gorge de quelqu'un d'autre. Ça dépend où l'on met l'accent pendant le tournage de cette scène. Donc pour cette scène qui se déroule le soir, j'ai préféré une approche plus classique. Parce qu'on entend le fusil qui tire et on ne voit pas les balles. C'est une question, c'est un choix esthétique. Jusqu'à présent, je fais des films avec beaucoup de dialogues et des scènes longues. J'aime écrire des dialogues. J'avais encore quelques scènes comme cela dans ce film, mais au montage, j'ai décidé de donner au film un certain rythme, de jouer avec ce rythme, de donner davantage d'importance à la musique, de mettre davantage de chansons afin que dans ce film, on trouve ce type de rythme. Quand on tournait le soir avec Vlad et Christy, on mettait de la musique en même temps, et aussi dans le motel. Comme cela, les personnages se mettaient dans l'humeur, se mettaient dans l'atmosphère grâce à la musique. Dans les scènes où Christy rentre chez elle pour cacher l'argent, il était important d'avoir ce type de mouvement tel qu'on le voit dans le jardin et que ça corresponde au rythme de la musique. Donc on a mis la musique sur le plateau.
Gomera
était un titre que nous avions choisi parce que j'avais travaillé avec Juliette et il y avait une confusion entre Gomera et le film Gomorra. La Gomera, Gomera, Gomorra, ça prêtait à confusion. Alors Les Siffleurs comme titre, ça rappelle aussi d'autres titres, c'est une bonne solution à l'international.
Les Siffleurs est disponible en VOD. Autre film disponible en vision à la demande, mais dont on n'avait pas parlé pendant l'émission lors de sa sortie, c'est Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. C'est Marine qui nous en parle depuis son domicile, toute confinée qu'elle est à regarder films et séries.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Un harlequin, tu sais ce que c'est ? Le rôle de l'harlequin est de servir. L'harlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre, les honnêtes gens s'en tapent.
Rappelez-vous, en 2016, David Hoyer réalisait Suicide Squad, un nouveau film extrait de l'univers DC qui mettait en scène tous les méchants les plus cultes de ses comics, notamment le célèbre Joker et sa compagne Harley Quinn. Le film était un amas de scènes mal montées, de comédiens en roue libre et de dialogues aussi creux qu'incompréhensibles, mais Margot Robbie, dans le rôle de Harley Quinn, tirait son épingle du jeu. Profitant de l'engouement actuel pour les héros déviants que l'on appelle par anglicisme des vilains et de la tendance féministe qui semble agiter quelque peu le cinéma d'action ces temps-ci, Hollywood nous gratifie donc d'un spin-off de Suicide Squad qui se concentre sur le personnage de Harley Quinn, un spin-off réalisé par Cathy Yan, produit en partie par Margot Robbie qui est elle-même à l'origine du projet Birds of Prey. Birds of Prey s'intéresse avec beaucoup de second degré à l'émancipation de Harley Quinn, qui, une fois séparée de son fiancé le Joker, se retrouve seule dans la ville de Gotham face à de nombreux ennemis qui ont tout le loisir de la trucider maintenant qu'elle est célibataire. La jeune femme va donc devoir faire le deuil de sa relation et sauver sa peau, notamment face à Roman Sionis, un méchant très esthète et narcissique, interprété par un Ewan McGregor au sommet de sa forme. Accompagnée de sa hyène domestique, car Harley Quinn a une hyène domestique, et de ses nouvelles copines très badass, elle va devoir retrouver un diamant et au passage descendre les hommes qui tenteront d'entraver sa route. Alors le film est bien sûr une allégorie de l'émancipation et de la prise de pouvoir féminine, de l'empouvoirment comme on dit en 2020, mais bien que le sous-texte du film soit féministe, ce discours n'est pas mis en avant. C'est un film qui ne se prend pas du tout au sérieux, c'est un pur divertissement dont le but n'est pas de militer, mais d'inventer les meilleures scènes de baston possibles. Et de ce côté-ci, la réalisatrice s'en donne à cœur joie, mettant en scène des séquences impressionnantes qui flirtent avec le comique burlesque dans des fêtes foraines, des bars ou autour d'un simple sandwich au fromage. Et malgré une narration inutilement alambiquée qui mélange flashback et flash-forwards, Birds of Prey réussit à rendre hommage à l'univers de Harley Quinn et à nous tenir en haleine du début à la fin grâce à pas mal d'humour et à des comédiens qui semblent prendre beaucoup de plaisir à être là.
C'est toi la nana cinglée?
Non, non, c'est réducteur. Créature, j'accepte. Ou madame? À la rigueur, garce.
Garce? Je comprends rien.
Jette ça pour moi, tu veux?
Terminons cette émission avec un film qu'on n'a jamais vu au cinéma et qu'on verra peut-être un peu plus tard, mais qui bénéficie en tout cas d'une sortie nationale en VOD depuis le 8 avril. C'est The Human Surge.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
La semaine dernière, vous pouviez écouter dans l'émission le directeur de la société de distribution Shellac, Thomas Ordono, qui se montrait entreprenant face à l'abondance de spectateurs cloîtrés chez eux. Il a fait le pari, lui, de sortir le film Monsieur Deligny, Vagabond efficace, le 25 mars en VOD, alors que sa sortie était initialement programmée le 18 mars en salle. Le distributeur fait à nouveau une sortie d'un film qui sera cette fois disponible en VOD à partir du 8 avril de Human Surge. Il s'agit d'un documentaire qu'on appellera expérimental de 2016, réalisé par Eduardo Williams, un jeune réalisateur argentin vivant à Paris, qui est habitué des festivals comme Cannes, Toronto ou Locarno, et c'est d'ailleurs dans ce dernier festival qu'il a remporté un prix. Alors si on doit faire simple, The Human Surge est partagé en trois segments. On suit majoritairement des jeunes hommes entre l'Argentine, le Mozambique et les Philippines. Alors en Argentine, il y a Exe, il a 25 ans, il vient de perdre son travail sans que ça ne le perturbe plus que ça. Il semble comme distant vis-à-vis de son groupe d'amis et sur internet, il rencontre Alf, un garçon vivant au Mozambique qui lui rechigne à aller à son travail tellement celui-ci l'ennuie. Il s'en va suivre un autre garçon dans la forêt pour une nuit. Ce garçon piste les fourmis et celle-ci nous mèneront jusqu'aux Philippines où Khan quitte sa campagne pour rejoindre la ville où il est employé pour un travail barbant qui semble nous concerner. Alors il n'y a pas un grand enjeu narratif dans The Human Surge qui suit ces personnages dans des situations anodines et quotidiennes où l'ennui n'est pas loin. Alors ceux-ci nous livrent quelques-unes de leurs pensées et questionnements et exposent aussi une forme de décontraction quant à la relation qu'ils ont avec le monde environnant. On assiste là à une jeunesse qui se cherche, qui s'interroge avec un réalisateur qui emprunte une vision poétique tout autant que pragmatique, comme quand il filme à plusieurs reprises et sur plusieurs continents des chats à connotation sexuelle auxquels s'adonnent quelques hommes pour gagner de l'argent. Sur chaque continent, c'est la même question. Il s'agit de trouver la connexion Wi-Fi gratuite qui permettra de se connecter, car le monde qui est décrit ici est le nôtre, traversé par une identité numérique. Mais ce n'est pas celle-ci que le réalisateur ausculte. La vision d'Eduardo Williams est contemporaine, filmant une certaine forme d'ennui et s'achevant avec l'absurde, son chemin est sinueux, sans doute déroutant et singulier. Le réalisateur qui se promène sur trois continents a également choisi d'utiliser trois formats de prise de vue différents, ajoutant une matière au cadre. The Human Surge est à réserver quand même à ceux qui ont l'habitude de petits objets expérimentaux. Ce film est en VOD depuis le 7 avril sur la plateforme du petit distributeur Shellac.
Vous avez fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible!
Ah, si, je vous assure!
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule!
Cette émission vous était présentée dans des conditions de confinement avec des prises de son hétérogènes. Pour nous, c'est important de continuer. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine.
Alors, c'est donc grave ce que j'ai?
Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner.
Oh.
Vous fumez?
Ah non. Non, je chique.
Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin?
Bon, j'en bois raisonnablement.
Plus une goutte de vin. Vous êtes marié?
Oui, docteur.
Sagesse totale de ce côté-là.
Je peux manger?
Eh bien, aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit.
Croyez pas que je ferais mieux de me coucher tout de suite. Oh, je me sens réellement pas à mon aise.
Gardez-vous-en bien, gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Ah. Oui, oui, faites vos annonces comme si de rien n'était. Et attendez tranquillement jusqu'à soir.
This is Cinerama. 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 Cinerama.